On va peut-être pouvoir passer par là quand même.
Vite, s'il vous plaît, je suis en chantier là-bas.
C'est un chantier ?
Ah ouais, là, je vais bosser là, là, j'arrive.
Ok.
Désolé, mais là, il y a des choses heureuses. Hein.
Juste, on vous dit que vous compreniez, en fait, on est artiste invité par le Quartz pour raconter aussi le chantier.
Oui, oui.
Donc c'est pour ça qu'on prend du son.
Je trouve que c'est intéressant pour eux aussi de voir vraiment le chantier, oui, parce qu'ils travaillent sur...
Toi, Kevin, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, les ouvriers sur le plateau, enfin sur le chantier, ils te parlent de tous les problèmes qu'ils rencontrent.
Oui. Après, moi, je m'y intéresse beaucoup et je connais quand même mon bâtiment. Du coup, si je peux les aider, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que c'est l'image du quartz. Et c'est pour ça que le quartz aussi nous intègre réellement dans tout ce qu'ils font et considère qu'on fait partie de la boutique, quoi. On essaye, chacun à notre niveau, de faire avancer le chantier.
Pour Jonathan Macias et Caroline Melon, le chantier se poursuit à Brest. Au bout du bout de la Bretagne. Exactement là où la terre finit. Le fourneau déménage du port au Capucin et le bâtiment XXL du Quartz est en rénovation pendant 2 ans. Pour Caroline et Jonathan, il s'agit d'habiter, de ressentir, d'écouter, de prendre le pouls de la ville, d'humer ses embruns. Aujourd'hui, dans ce carnet de bord numéro 2, il continue de creuser l'histoire. Rencontre avec des habitants, des mémoires, des émotions, des trajectoires. Résumé de l'épisode précédent par Benjamin Grebeau.
Donc Benjamin Grebeau, je suis délégué général en charge de la mission stratégie et prospective à Brest Métropole. Peut-être pour faire le lien quand même à l'histoire de Brest. C'est une ville dont l'acte de naissance, finalement, dérive de la décision de Richelieu de créer un port militaire à Brest, du fait de son positionnement ouvert sur l'Atlantique, mais aussi de cette rade qui permet finalement d'accueillir des bateaux en milieu relativement protégé, de la Pinfel, de ce petit fleuve côtier là qui entaille la ville en deux, et ville qui a été par ailleurs quasi complètement démolie au moment de la Deuxième Guerre mondiale, reconstruite donc, et donc de fait avec une physionomie aujourd'hui pour ce qui est en particulier le centre de la ville, eh bien cet ensemble urbain très homogène, des artères, des espaces publics extrêmement généreux qui confèrent quelque part à la ville un caractère parfois un peu monumental. Cette ville, aujourd'hui encore, il faut quand même avoir en tête que son économie est encore très largement liée à la présence de la marine. Donc ce lien-là historique est toujours présent, même s'il est aujourd'hui beaucoup moins visible. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire rapide et un peu de physionomie du centre de la ville d'aujourd'hui.
En fait, là, on est sous un espèce de crachin. Est-ce que c'est ça, le crachin brestois ?
Ah ? Oh.
On s'en rend même pas compte.
Oui. Ah oui.
Non, c'est important parce que nous, on nous ment depuis le début. On nous dit qu'il pleut à Brest et nous, à chaque fois, il fait hyper beau. Et là, enfin, ça y est, on voit quelque chose qui... Mais là, ouais. On n'est pas sous de la pluie, là.
Non.
On va aller s'abriter, quand même.
Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le sous-sol d'abord et qu'on puisse ensuite aller dans l'église Saint-Louis. Je pense qu'on verra, ce sera plus parlant, on va dire, dans ce sens-là. Donc, Christine Berthoubalot, je suis animatrice de l'architecture et du patrimoine à la ville de Brest.
Yann Le Gat, alors, écrivain et historien, brestois, voilà, simplifié.
Et donc on s'était déjà vu lors de la dernière résidence, Christine, vous nous aviez raconté, mais dans votre bureau, vous nous aviez raconté plein de choses sur une carte, et Yann, on s'était vu au Vauban avec Olivier Pollard, donc, et vous nous aviez aussi raconté plein d'autres trucs.
Hop, alors...
Ah oui, là c'est quand même...
c'est un peu brut de découpage, hein, pour l'instant.
Donc nous sommes sur quand même un pignon de béton, en fait, d'une 50-60 mètres de haut. Et tout en bas, nous avons une petite porte en bois par laquelle nous allons passer et emprunter un petit escalier vermoulu.
C'est un peu Alice au Pays des Merveilles, quoi.
Exactement.
Oh là là, dis donc.
Ah oui, d'accord.
Alors, on est sur le sol, l'ancienne église. Là, on est sur le sol historique, en fait.
Ah oui, d'accord.
Allez, l'ancienne église. Là, on était vraiment dans l'église, en fait.
Donc, il y a aussi cette émotion-là d'être dans l'histoire plus ancienne de la ville, quoi. Brest a plusieurs lieux qui peuvent raconter son histoire, donc la Tour Tanguy, la Brissade d'Icarnaud, mais ici, je pense vraiment que c'est intéressant donc pour cette idée-là, la ville d'avant et la ville du dessus reconstruite, qui est, là, la superposition, elle est immédiate, quoi. Brest, il faut la reconstruire toujours mentalement, en fait, et c'est ça qui est compliqué à comprendre, et ici on le comprend, je trouve, assez bien.
Qu'est-ce que vous voulez dire, il faut toujours la reconstruire mentalement?
C'est-à-dire qu'il faut toujours penser qu'il y avait autre chose avant, à un autre niveau, pas forcément au niveau où on est, que les bâtiments que les rues ne sont pas toujours au même endroit. Il y a toujours un travail de superposition des plans à faire, et c'est parfois un peu complexe, en fait.
C'est le fameux palimpseste.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ouais.
Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que d'abord, il est très, très, très poétique pour moi, palimpseste.
Oui, oui, oui.
C'est un peu mystérieux. Exactement. Mais en même temps, je trouve que ça caractérise vraiment bien Brest, ce palimpseste, de ce parchemin qui existe et sur lequel on peut s'effacer, réécrire. Alors, on peut dire ça de toutes les villes, mais quand même. Je trouve qu'à Brest, ça prend une signification vraiment très importante.
Mais parce qu'en fait, à Brest, à chaque fois qu'on rencontre des gens, tout le monde nous dit « Alors, l'histoire commence quand Richelieu décide que… » Et c'est rare qu'on dise « Une ville commence à 7 ». C'est beaucoup plus progressif en général. Il y a quelque chose à chaque fois d'un changement qui est comme un parchemin qu'on efface.
Ah oui, puis c'est assez violent à chaque fois et c'est violent. Il y a de la violence dans tout ça.
C'est très chargé d'émotions. Le côté palimpseste de la ville, il recrée à chaque fois aussi, enfin il fait superposer des émotions. Alors des émotions issues de trajectoires, de vie totalement contrariée, heurtée par tous les événements tragiques. Et du coup, en fait, ce sont des gens aussi derrière qui ont souffert de ces événements, et ça donne une couleur quand même assez chargée en émotions. Ouais. Ouais.
L'effet que ça me fait, moi, par rapport à ça, c'est comme si il y avait... En effet, une ville d'avant qui émergeait par de tout petits endroits, quoi, et qui avait quelque chose d'hyper fort à aller se recueillir dans ces endroits-là, ouais. Parce qu'on sait que c'est comme si on entrait en contact avec précisément toute l'histoire et puis ouais. Tout ce que les gens ont traversé d'avant ce bombardement. Alors, ouais. Bien sûr qu'à nouveau, les lieux d'histoire font toujours ça, mais là, il y a quelque chose de tellement avant-après,
ouais.
Aussi.
Oui. C'est aussi cette nostalgie, elle est là, de moins en moins présente, hein, ceci dit. Mais quand même, parce qu'il y a eu une violence et que, quelque part, on a aussi imposé aux gens une nouvelle ville qu'ils n'avaient pas connue, qu'ils n'aimaient pas, finalement. Et, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. L'histoire d'amour entre la reconstruction et la ville reconstruite et Brest, elle est extrêmement compliquée aussi. C'est-à-dire que c'est une très forte période de nostalgie sur les baraques. Donc il y avait des cités de baraques à la fois dans le centre-ville pour la cité commerciale. Il y en avait du côté de Saint-Pierre. Il y en avait beaucoup à Bellevue. Il y avait des grosses cités de baraques à Bellevue. Il y en avait aussi du côté de Saint-Marc, mais moins. Ce moment de baraques, c'est un moment aussi très nostalgique pour les Brestois. Et donc ça reste très ancré dans la tête des gens, que c'était une sorte de période heureuse.
Dans sa baraque en bois, on est comme chez soi, Très heureux et content, toujours en attendant, même lorsqu'il fait froid, quand souffle la grande tempête. La 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 la. Tu dresses toi qui la foi, habite dans une baraque tout en bois. Tu dresses toi qui la foi, habite dans une baraque tout en bois.
On reste debout là ou on s'assoit?
On vous suit, c'est vous qui nous faites la visite. Ouais. Nous, on est très naïfs, c'est vous qui drivez.
D'accord. Bon, je m'appelle Jacques Killian. Moi, je suis né en octobre 45 et 6 mois après, j'étais ici dans ma baraque, là, à 100 mètres plus haut. Voilà, j'ai vécu mon enfance ici dans le quartier. J'ai fait...
Attendez, je vous coupe.
Ouais, allez-y.
Juste hein. Quand vous dites le quartier, vous pouvez nous dire...
Ah, le quartier de Recouvrance.
On est en Recouvrance encore.
Ouais. Ouais. Ouais, donc voilà, donc ici, vous avez le plateau des Capucins, ouais. Et la rue Saint-Malo, c'est la petite rue qui est là, donc on est juste en haut ici, là. Le lavoir est en haut. C'était des baraques tout du long. Là. En fait, quand la guerre a été finie, il fallait faire revenir les habitants, les bâtiments d'habitation étant rasés, tous les autres qui étaient chez réfugiés de partout, donc ils n'aspiraient qu'à revenir dans leur ville. Et donc avoir une baraque, on était sauvés. Donc l'environnement de Brest était recouvert de baraques, les lycées étaient en baraque, les écoles étaient en baraque, la mairie était en baraque, la cité commerciale était en baraque, tout pareil. Et donc moi j'ai habité là pendant 15 ans. J'en ai marre d'entendre les gens critiquer le... Brest n'est pas beau, n'est pas belle, quoi. Je trouve que c'est subjectif, beau, pas beau. C'est chacun voit en fonction de ses références. Mais moi, j'ai appris, j'étais moi-même, je répétais ça après mon père, parce que mon père, je comprends, lui, il avait la nostalgie de son Brest d'avant-guerre qu'il ne retrouvait plus. Et donc, il disait, ah, Brest avant, là, et puis il me parlait des vieilles rues, j'ai dit, mais attends, pas, tu me dis ça là aujourd'hui, et puis tu me dis que on pouvait pas se promener dans la rue Caravelle, on pouvait pas dans la rue du quartier des Sept Saints parce que c'était des coupes-gorges, que la ville était insalubre. Si Maton a reconstruit la ville à partir des plans qui avaient été plans de Millénaud qui avaient été dessinés avant, c'est parce que la ville avait besoin d'être refaite complètement.
Brest, c'est une ville qui, parce qu'elle n'a peut-être pas cette dimension historique, patrimoniale, très, très tenue, est en fait toujours une ville de projet.
Benjamin Grebaud.
Donc c'est une ville qui, à mon avis, peut-être plus que d'autres, a la capacité de se réinventer sur elle-même. Et je pense qu'à Brest, tout espace est un espace de projet. C'est pas une ville qui est trop corsetée, et donc on peut y jouer. On peut la faire bouger, on peut la faire évoluer. Il y a un potentiel d'amélioration et de la qualité de vie dans le tissu déjà constitué qui est phénoménal, me semble-t-il.
Je pense que t'es pas bien allumé.
Ouais.
Ça, hop là.
Au moment où ça enregistre.
Il s'enregistre même pas d'ailleurs.
Si ça enregistre, j'ai lancé.
Ah ouais.
Merci.
Donc là, tu te doutes bien, oui, qu'on est au summum de ce que tu vas capter en son. Tu vas garder que ça, d'ailleurs, je pense, de la semaine.
Donc on passe devant la Cinémathèque, devant le Vauban. On redescend vers le Quartz. On passe sur ce parvis.
Et oui, parce qu'en fait, pour les gens qui ne sont pas brestois et qui, du coup, ne savent pas vraiment où est le Quartz, en fait, le Quartz, c'est quand même en plein centre-ville. En fait, depuis combien ici, mais on se retrouve toujours quand même à passer à cet endroit-là, quoi.
Ah ouais.
En complémentarité avec le fourneau qui du coup va se retrouver au Capucin, et on l'a bien vu à chaque fois qu'on y va, la halle des Capucins, c'est toujours blindé de monde aussi.
Ah ouais. La halle des Capucins, on n'en a pas encore beaucoup parlé pour l'instant, mais donc c'est vécu comme une place publique couverte, puisque à Brest, la question d'être couvert pour pouvoir faire des choses compte. Et en fait, il y a plein de gens qui passent du temps, du journée, soirée, à faire du skate, du roller, du hip-hop. Les gens viennent en famille, passer du temps là, le dimanche, il y a des expos. C'est vraiment comme une place publique, en fait.
Ouais, couverte. C'est une couverte. Halle, une grande halle.
Bonjour.
Bonjour. Donc là, on vient de rentrer dans le hall du Quartz. Et là, on coupe et on reprendra avec l'interview de Anne et Hélène. Si elles nous en donnent l'accord, on espère bien fort que oui.
Est-ce que tu m'entends bien?
Ouais.
Est-ce que tu crois que mes boucles d'oreilles vont faire tic-tic?
Je les entends pas.
Ouais, bon, moi j'entends parce que j'ai une oreille bionique, alors j'entends tout.
T'as une oreille bionique?
J'entends même une bulle de Perrier.
Pétrin,
je ne vous dis pas, c'est merveilleux et à la fois c'est très difficile parce que tu entends tout.
Du coup, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter voilà.
Ah oui, alors moi je suis Anne Millour et je suis conseillère musique au Quartz.
Et moi, je m'appelle Hélène Kerebel et je suis assistante au service relations avec le public.
Ce qu'on partage, on partage sûrement une quantité de souvenirs, mais pas tous, pour tout un tas de raisons. Mais on était là depuis le départ. J'ai toujours travaillé sur la musique. Au début, c'était de la Maison de la Culture, donc c'était en 83. Voilà. Après, ça a été les affaires culturelles de la ville. Après, j'ai été détachée au Quartz, etc., etc. Mais le tronc commun de tout ce parcours, ça a toujours été la musique. Mais quand je dis la musique, moi, c'est les musiques. C'est aussi ma nature d'un éclectisme revendiqué. Le plaisir, c'est de trouver la pépite. Et alors là, je monte sur les tours, je veux que toute l'équipe de... Pas tant tous les bureaux, écoutez ça, c'est trop bien. Et je vais à Dialogue et j'achète, je sais pas combien de CD et j'en offre à tout le monde. Et puis je suis...
folle dingue.
Je suis folle dingue. Et ce tempérament-là ne s'est jamais étiolé.
C'est tout à fait ça. C'est vrai que l'exemple qui vient, c'est Omar Suleiman. J'ai découvert une pépite, là, ouais. Ah, t'étais folle. Hein.
Ouais.
Mais bon, ça valait le coup. Donc, de le voir à Brest, dans notre petit Finistère Nord. Oh là là.
Et toi, Hélène, est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite su que tu voulais travailler dans le milieu culturel parce que donc tu es allée voir plein de concerts, comme le disait Anne?
Du tout, ouais, c'est ouais, c'est un beau destin, je trouve. Et je suis toujours en gratitude de ce qui m'est arrivé. Et puis, voilà, de comment tout commence. Pour moi, le théâtre, c'était un tout petit peu à l'école et beaucoup au théâtre ce soir avec mes parents. La culture n'était pas très au cœur de nos vies. Hein. Et le hasard a voulu que j'avais une tante qui était comptable à la SOPAB. Et il y avait cette fameuse ouverture, l'inauguration du grand spectacle cabaret de Jérôme Savary. Il manquait d'habilleuse. Il faut que tu nous dépannes, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous dépanne. Donc voilà, j'allais la dépanner parce que c'était ma tante. Et alors là, je suis tombée dans un univers et c'était incroyable. J'ai jamais vu le spectacle puisque j'étais dans les coulisses. J'ai appris des choses folles. Mais c'était un monde incroyable.
C'est quoi qui t'a saisi? Tu peux essayer de dire?
Ah là là, c'est de voir ces danseuses, le travail, le métier. Tous ces métiers en concordance, toute cette alchimie du avant un spectacle, les répétitions, le travail, les costumes, la beauté des costumes, l'exigence du geste. On se couchait très tard et il y avait une super ambiance de fête. Moi je regardais quoi. Mais ouais, un truc de ouf.
Et est-ce que vous pouvez justement chacune nous raconter le souvenir le plus fort?
Mais un parmi tellement d'autres, c'était Bachung, parce que c'était quelques mois avant son décès, et il y avait une émotion de dingue. Voilà, la salle était transie. On avait l'impression que là, il y avait des circulations d'énergie dans un sens et dans l'autre. C'était juste d'un point de vue de l'énergie qui était dans cette salle. C'était juste très sensible, très, très émouvant. Il y a des moments où, quand je dis aux collègues, ratez pas ça, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Donc depuis, c'est devenu une blague. Ouais, mais Anne, c'est quoi le rendez-vous avec l'histoire, là, cette année ou alors, avant d'aller voir un truc, ouais, mais est-ce que c'est un rendez-vous avec l'histoire? C'est devenu une grosse blague, quoi.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu...
Et toi, Hélène, sur ton souvenir de spectacle, de concert?
Moi, c'est vrai que, comme Anne, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce qu'il y a... On a tellement de chance de voir des choses mais incroyables tous les ans. Mais je vais citer quelque chose qui pour moi est important dans ma non-culture.
Et tu ne peux pas dire ta non-culture, tu as vu des milliers justement, de spectacles.
Tu vas voir, l'exemple que je vais prendre. Oui. J'espère que tu te rappelles du théâtre du Radeau.
Oui, François Tanguy.
François Tanguy. C'est un spectacle de théâtre. Où il y a, c'est une langue inventée, il y a des personnages, il y a une lumière que moi j'ai trouvée sublimissime. Je ne pourrais pas vous raconter, c'est une vie, c'est la vie des gens, il y a des enfants, il y a la vie, voilà. Mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et donc, je suis restée scotchée à ce spectacle et j'étais dans un non-temps, c'est-à-dire que j'aurais pu rester là. Voilà, c'est une émotion incroyable. Quand le spectacle s'est terminé, j'ai osé exprimer ça. Incroyable, le truc incroyable. Je viens de ressentir un truc incroyable. Et j'ai dit, mais mon Dieu, comme c'était beau, comme c'était beau. Tout le monde était là. Ah bah dis donc, franchement, alors là, tu fais vraiment ton intello de dire un truc pareil. Parce que, alors là, c'est vraiment pour plaire que tu dis ça. Parce que franchement, et tout d'un coup, j'ai eu sacrément un jugement. En disant, écoute, ma petite Hélène, tu n'as pas les clés et la culture, du coup, tu ne donnes pas ton ressenti. Et je me suis assez fermée pendant longtemps à dire quand j'aimais ou que je n'aimais pas.
Et qu'est-ce qui a permis de réouvrir?
Ah, ben voilà, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est une nourriture. Ça vous cultive à votre insu, je ne sais pas. Vous vous ouvrez, vous vibrez, vous partagez, ça vous élève, c'est une émotion. C'est vrai, je dis toujours que j'ai une grande gratitude dans mon petit chemin, là, d'être arrivée encore ici. Et plus j'y suis et plus j'adore. Ouais, des fois on dit est-ce qu'on est à la bonne place, je dis ben, merci la mienne.
Est-ce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on rate sur Brest?
Le pont de recouvrance. Enfin, il y a un truc avec comme un grillage avec des trous. Et quand il y a du vent, ça vibre. Et ça, c'est très très beau. Et c'est un peu comme David Icke's l'harmonique choir. Et c'est un truc unique. Mais il faut qu'il y ait du vent pour enregistrer ça. Et ça, pour moi, j'entends ça, c'est Brest. Ça fait... c'est incroyable de traverser le...
Thierry Ballas a dit que le vent n'avait pas de son.
Oui.
C'est le déplacement d'air qui rencontre de la matière, qui fait le bruit. Ouais. C'est poétique.
À suivre. C'était le carnet de bord numéro 2 de Brest 2021-2023. Une proposition de Chair et d'Os. Avec dans l'ordre d'apparition
Kevin Toquin, responsable du PC Sécurité du Quartz. Benjamin Grebeau, délégué général en charge de la mission Stratégie et Prospective à Brest Métropole. Christine Berthoubalot, animatrice de l'architecture et du patrimoine à la ville de Brest. Yann Legat, écrivain et historien. Jacques Killien, habitant et ancien élu de Recouvrance. Anne Meillour, conseillère musique au Quartz. Hélène Kerrebel, assistante au service relations avec le public du Quartz. Montage et réalisation, Michael Plugnan.